m'a payé ça, tu crois que ça va aller? Non, mais il faut tourner, t'as un tournevis, toi.
Qu'est-ce que vous faites?
Un plan de main.
Un main pourquoi?
Pour la radio, pour que la radio elle porte plus loin, pour que ce soit plus joli, plus mieux entendre.
Arrête de m'enregistrer, tu me stresses.
Il m'a enlevé les mots de la bouche. C'est pas un micro que vous avez, c'est un aspirateur.
Hey, tu peux revenir dans la partie sur un coup miraculeux, hein, on va pas se mentir.
Le violoniste Gabriel Faure était l'invité de la 31e édition du Festival de Fifre de Garonne à Saint-Pierre-d'Aurillac. Il est en notre compagnie sur Alternant FM, 98.1 à Saint-Herblain et Nantes, 91 à Cambon-Saint-Nazaire. On est en juin 2021, je crois qu'on est le 26 ou le 27, Gabriel Faure ?
On est le 26 juin.
Le 26 juin. Ah, bonsoir, on est à Saint-Pierre-d'Aurillac et vous avez envie de cookies, Gabriel Faure ?
En fait, la vérité, c'est que ces cookies, ils traînaient dans la maison où je dors pendant le festival. Et je dois avouer, mademoiselle, que j'en ai mangé deux ou trois. Donc, je voudrais payer les deux ou trois que j'ai mangés sans votre consentement et en acheter deux ou trois de plus pour faire tourner la boutique un petit peu. Est-ce que vous avez un petit peu de monnaie? Il me faudrait du coup trois cookies que j'ai déjà mangés et trois cookies que je voudrais bien manger après. S'il vous plaît.
On est à Saint-Pierre-de-Rillac. Qu'est-ce que vous faites ici, Gabriel Faure ?
Bien, j'ai été invité à jouer ici, d'une part par mon ami Jean-Luc Thomas, flûtiste de son état. Attends, je range le cookie.
Allez-y.
Non, je voudrais trois cookies. Parce que j'en ai mangé trois et j'en voudrais trois autres. Voilà. Et du coup, 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est bon, tout va bien. Et donc, j'étais invité par mon ami Jean-Luc Thomas qui me parle de ce festival depuis le temps que je le connais. En fait, même si parler n'est pas exactement le bon mot, puisqu'il me tanne avec ça, avec son copain Didier, son copain Pierre, son copain machin, son copain truc. Et donc, je suis enfin content de mettre des visages sur les noms dont Jean-Luc me parle.
Et vous allez jouer ici, enfin à côté d'ici, là, sur les bords de Garonne. Saint-Pierre-de-Rillac, on est en Gironde. On est entre Langon, Saint-Macaire, La Réole, le long de la Garonne. Et vous allez jouer aux Arocs, le port de Saint-Pierre-de-Rillac. Ce sera demain dimanche. Donc le duo Jean-Luc Thomas, Gabriel Faure, c'est un duo qui existe depuis combien d'années ?
Jean-Luc et moi, on s'est rencontrés dans une session irlandaise en Bretagne il y a quelques années. Et on a détecté qu'il y avait du potentiel chez l'un et chez l'autre et que c'était très agréable de jouer ensemble tous les deux. Ensuite, donc Jean-Luc jouait avec un percussionniste irlandais qui s'appelle David Hopkins, avec qui il est venu jouer ici de plusieurs fois, je crois. Et ce duo-là a enregistré un disque après 15 ans de partenariat sur lequel ils ont invité une nouvelle génération de musiciens dont je faisais partie. Et c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à jouer ensemble. Et puis un jour, Jean-Luc a beaucoup travaillé avec Zingaro pendant quelques années. Et il y a un jour qu'il jouait du côté de la vallée de la Roya, dans les Pyrénées, non, dans les Alpes, pardon. Il est allé rencontrer Cédric Héroux et il s'est rendu compte qu'il y avait des gens extraordinaires dans le monde et qu'il fallait faire quelque chose contre toute cette misère et cette barbarie qui nous entoure et qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide. Et donc il a appelé chez lui, dans le Trégor, des organisateurs de Fest-Noz, d'associations et des choses comme ça pour soutenir les migrants, les exilés. Et on lui a proposé de jouer dans un Fest-Noz de soutien. Et donc il a appelé un compère au hasard et c'est tombé sur moi. Et donc on a formé un duo de Fest-Noz à cette époque-là. Et donc on est resté ensemble sur ce mode un petit peu de duo conscient, de duo qui s'implique un petit peu dans la vie, je dirais pas politique, mais dans la vie sociale, au-delà de juste aller au bar d'à côté et boire des coups, quoi. On essaye d'aller un peu plus loin et d'aller sur le terrain. Donc on est allé à Calais ensemble, on a joué pour des Fest-Noz de soutien pour les exilés de Ouistreham. On essaie d'être un petit peu présent dans le monde qui nous intéresse, d'être l'action, d'être, comme dit Gandhi, voilà, il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc on essaie d'être ce changement-là, quoi.
Thank you.
Gabriel Forêt, Gabriel Fort, pardon. On a dû vous la faire mille fois celle-là. Elle était vraiment pas volontaire de ma part. Gabriel Fort, violon. Jean-Luc Thomas, flûte. L'utilité d'un musicien, c'est pas uniquement de faire plaisir aux gens et de les faire danser.
Bah non, absolument pas. La preuve, c'est que là, j'ai un micro devant moi, on m'interview, on me fait monter sur scène pour faire danser les gens. J'ai une visibilité, enfin, nous avons une visibilité que beaucoup de gens n'ont pas. Et donc, plutôt que de l'utiliser, cette visibilité, juste pour se faire de l'autopromotion et montrer qu'on est les meilleurs du monde et qu'on en a un beau disque à vendre, on fait un petit peu ça, évidemment. Mais on essaie aussi de faire passer un message plus large. Et même si on ne le dit pas directement sur scène en disant « donnez des sous aux associations », on est quand même habité par cette conscience, par ces aventures qu'on a été vivre ensemble. Et je pense que ça se ressent dans la musique, que c'est pas juste anodin, quoi.
Alors vous êtes breton, vous êtes né en Bretagne, vous vivez en Bretagne. Est-ce que ça a du sens d'ailleurs de parler de vous en disant Gabriel Fort, violoniste de Bretagne ou musicien breton, violoniste breton? Est-ce que ça a du sens?
Alors non, parce que je ne suis pas ce stricto sensu de sang breton. Je suis arrivé en Bretagne il y a 15 ans, j'arrivais de Caen. Par contre, en Normandie, j'avais pas vraiment eu d'accroche avec la culture locale normande. Et c'est quand je suis arrivé en Bretagne que j'ai découvert vraiment des gens qui étaient ancrés, qui avaient des traditions, qui avaient une culture vraiment très, beaucoup plus vivante qu'ailleurs, qui m'a donné envie d'habiter là-bas et de planter mes racines là-bas. Donc maintenant, je préfère dire que je suis breton plutôt que normand ou autre chose, parce que c'est une origine choisie. Je pense que le fameux faux débat qu'on a eu il y a quelques années, que le gouvernement a essayé de nous faire avoir il y a quelques années sur l'identité nationale, eh ben, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que chacun peut choisir ses racines, peut choisir d'où il vient, et que c'est un choix plus qu'un fait. C'est une action volontaire. Donc j'ai décidé que je serai de Bretagne.
Alors, puisque vous parlez de choix, vous êtes violoniste. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le violon ?
Je m'en souviens pas. J'ai commencé quand j'avais 6 ans et demi. Toute ma famille faisait de la musique. Donc, mon grand frère faisait de la trompette et du piano. Ma grande sœur faisait de la flûte. Ma maman chantait et faisait du piano. Mon papa chantait. Il y avait de la musique toute la journée dans la maison. Et donc, on m'a pas demandé si je voulais faire de la musique. On m'a demandé quel instrument je voulais faire. Et comme j'avais 6 ans et demi, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le violon, mais je pense que j'ai fait un bon choix.
Et alors, justement, Gabriel Fort, la formation que vous avez eue, ça a été une formation, classique, conservatoire.
Exactement. Ma maman travaillait au conservatoire comme bibliothécaire, et puis aussi comme professeur d'éveil musical. Et donc, on avait des cours gratuits pour toute la famille, et donc on m'a naturellement inscrit au conservatoire. Et j'ai suivi les cours là-bas jusqu'à mes 16-17 ans à peu près. Et comme je suis devenu un petit con à 16-17 ans, je commençais à décrocher, à plus trop travailler et je suis parti. Mais c'est là que ça m'a sauvé parce que la plupart des... Non, pas la plupart, mais beaucoup de jeunes musiciens qui font comme moi et qui quittent le conservatoire vers 16-17 ans parce qu'ils deviennent une bande de petits cons, la plupart de ces gens-là posent leur instrument et ne rejouent jamais. Et heureusement pour moi, ça a coïncidé avec une période où j'ai découvert les musiques de tradition orale, donc avec mon voisin qui s'était mis à l'accordéon diatonique, et les sessions irlandaises du bar d'à côté dans la rue. Et ça m'a permis de découvrir une autre façon de jouer de la musique qui n'était pas développée dans le conservatoire de musique classique, qui m'a permis de juste simplement d'aimer jouer de la musique et de rencontrer des gens et de nouer des relations avec les gens, de renouer des relations avec les morceaux que je jouais et surtout de continuer à jouer de la musique indépendamment de mon professeur.
Alors vous parlez de ce bar et de cette rue, on est où exactement ?
On est à Caen, on est à la Tour Solidor et c'était avec Pierre Boissel et Jean-Claude Philippe, les deux violonistes qui m'ont vraiment inspiré à l'époque.
Donc là on était encore en Normandie ?
Oui absolument.
Mais vous dites que justement cet ancrage là, c'est une musique vraiment au milieu des gens et puis une musique vraiment dans la vie de la cité, dans la vie sociale, c'est véritablement en Bretagne que vous la découvrez.
Voilà, c'est-à-dire que quand j'étais à Caen, donc j'ai commencé à faire des musiques irlandaises et balfolk avec mon voisin. Et je me suis rapidement rapproché d'une association qui s'appelle La Boîte à Bois, qui organise des bals folk à Caen. Et en Normandie, quand on organisait un bal folk, on avait 100 personnes, c'était une grande réussite. Quand je suis arrivé en Bretagne, j'ai fait un fest-noz, et il y avait 700 personnes, et je me suis rendu compte que, waouh, ça pouvait être vraiment super fort et super, super grand. Et surtout en Bretagne, j'ai rencontré des musiciens, des violonistes notamment, qui vivaient de leur musique et qui avaient une famille, une maison, des enfants, qui vivaient vraiment de ça et avec qui je jouais. Donc on avait le même niveau, entre guillemets, on pouvait communiquer. Donc c'était la preuve que moi je pouvais aussi devenir musicien professionnel. Et chose qui n'aurait pas été possible en Normandie puisqu'il n'y avait pas assez de public pour ça.
Thank you.
Gabriel Faure. Donc, je rappelle, hein, on est avec vous, on est à Saint-Pierre-d'Aurillac, festival de Fifre de Garonne, qui a un aspect, une organisation un peu spéciale cette année à cause du Covid, à cause de la pandémie. Mais bref, il a lieu. Gabriel Faure, tout à l'heure, vous nous parliez de cette musique traditionnelle que vous avez véritablement découverte, on va dire, en Bretagne, une tradition orale. Vous êtes compositeur également, vous êtes violoniste et vous êtes compositeur. Et le travail de composition que vous le faites souvent à partir de mélodies traditionnelles.
Pas forcément, je compose des trucs un peu au hasard, comme ça. Et puis, ça sort comme ça sort. Il y a pas de, j'ai pas vraiment de règles. Et puis, quand je trouve un projet, un groupe, des gens avec qui jouer ça, avec qui ça irait bien, je les sors de mon panier. Et puis, on les met en place. Mais parfois, ces compositions peuvent rester pendant plus de 10 ans dans un placard. Et puis, elles sont toujours dans un coin de ma tête. Et puis, le jour où, tiens, on cherche une mazurka, hop, je la sors. Et voilà, c'est ce qu'on a fait récemment avec une des mazurkas qu'on va jouer demain soir avec Jean-Luc.
Et quand vous composez, vous pensez tout de suite aux danseurs ?
Absolument pas. Non, je compose des trucs et puis des fois ça sort en 7-8 avec des rythmes complètement bizarres, incompréhensibles. Voilà. Des fois ça sort en une jolie valse, des fois ça sort en quelque chose de joli, des fois non. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment selon le moment, selon l'humeur, quoi.
Je vous ai écouté il y a pas très longtemps, c'était chez moi d'ailleurs, on peut le dire, hein. C'était mercredi dernier, vous jouiez donc avec Jean-Luc Thomas au flûte et ou même au violon, et dans ce duo, on n'est pas dans une formule où le flûtiste joue, et puis après c'est le violoniste qui joue, et puis les deux musiciens montrent tour à tour ce qu'ils ont, ce qu'ils savent faire de façon très... très spectaculaire. On est vraiment dans autre chose, on est vraiment dans le duo, dans l'écoute et dans cette capacité à fabriquer de la musique ensemble.
Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on développe assez fortement dans ce duo. C'est le lien, avant tout, le lien entre les deux musiciens. C'est-à-dire que quand on joue ensemble, on se branche les yeux dans les yeux, les oreilles sur l'instrument de musique de l'autre. Et on réagit ensemble, on se met en harmonie, on vibre à la même fréquence et on dialogue. En fait, quand il y en a un qui fait une variation, l'autre l'entend, puis il reprend la variation après, on joue en fait ensemble. Parfois, c'est arrivé que l'un fasse une blague tellement forte à l'autre que l'autre arrête de jouer, tellement on peut dialoguer avec la musique, quoi. Et au-delà de ce lien qu'on a tous les deux, on essaye aussi de provoquer des musiques, enfin de provoquer du lien social chez les gens. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent dans un concert, eh ben, on essaie de faire en sorte qu'à la fin du concert, ils soient plus amis avec leurs voisins qu'au début du concert. Donc on est vraiment dans une culture de lien, de rencontre, d'échange sur scène et avec le public, entre nous et le public, et aussi le public entre eux.
Très souvent, des histoires qui accompagnent les morceaux de musique que vous jouez, Gabriel Faure.
Absolument. Moi, je me suis construit depuis mes 6 ans et demi avec un violon sur l'épaule. Donc, forcément, je vis avec mon violon. Et là, il est pas loin. Et donc, je suis en permanence en train de jouer de la musique ou de penser à jouer de la musique. Là, en ce moment, j'ai une mazurka dans la tête. J'ai toujours de la musique autour de moi. Et du coup, ma vie, c'est la musique. Et la musique, c'est ma vie. Il n'y a pas de différence vraiment. Donc, quand je joue un morceau, je revis le moment où je l'ai composé. Et je revis aussi énormément de moments où je l'ai joué. Par exemple, la mazurka que j'ai dans la tête en ce moment, je l'avais composée de manière totalement improvisée dans un studio d'enregistrement avec un accordéoniste. Et à chaque fois que je l'entends, je revis ce moment-là. Mais je revis aussi les 27 répétitions qu'on a fait avec Jean-Luc, et je revis aussi les concerts qu'on a fait ensemble en jouant ce morceau-là. Et donc, y a 1 million d'histoires à raconter pour chaque morceau.
Le violon dont vous parlez, vous pouvez nous le décrire? Alors déjà, est-ce que c'est un violon qui vous accompagne depuis très longtemps? Est-ce que vous n'avez qu'un violon?
Oui, exactement. Je n'ai qu'un seul violon. Je l'ai eu quand j'étais assez grand, en taille, pour avoir un violon de taille adulte. Mes parents m'ont acheté ça. Et c'était, ça a toujours été, lui, mon violon, quoi. Et maintenant, quand j'essaie d'autres violons des amis ou chez des luthiers, je compare toujours à celui-là. Et j'ai tendance à dire que c'est une relation qui va dans les deux sens, entre un violon et son violoniste. C'est-à-dire que le son du violon, la façon dont il va réagir à certaines notes, certaines impulsions, etc., va changer la façon de jouer du violoniste. Parce que, à force, on le connaît, on sait que là, ça va bien sonner, là, ça va pas sonner, etc. Mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le violoniste, avec sa façon de jouer, peut changer le son du violon. Et ça, j'aime beaucoup, c'est comme si j'avais un lien, comme avec Jean-Luc, c'est comme si j'avais un lien fort entre lui et moi et qu'on s'influence mutuellement.
Thank you. Gabriel Faure sur Alternante FM 98.1 à Saint-Herblain et Nantes, 91 à Cambon-Saint-Nazaire.
Moi, personnellement, dans mon histoire, j'ai commencé vraiment à prendre du plaisir à jouer, en jouant de la musique, en jouant des musiques de tradition orale avec des gens, en nouant des relations autour de moi. Et donc aujourd'hui, pour un élève qui commencerait à 6 ans et demi ou à 7 ans à jouer de la musique, je ne suis pas professeur, donc mon avis n'est pas tout à fait... n'est pas tout à fait aussi pertinent qu'un professeur qui pratiquerait depuis 40 ans, mais selon moi, le parcours idéal, c'est d'avoir un parcours classique, puisque dans les écoles de musique classique, on pratique une exigence qui est vraiment très forte, et notamment, on travaille beaucoup la posture du musicien qui permet de ne pas se blesser en jouant, et qui permet d'aller très loin dans la virtuosité, dans le niveau, dans le contrôle de l'instrument. Et en parallèle, selon moi, il faudrait que l'élève qui commence, il ait aussi des groupes de musique, qu'il ait des amis avec qui jouer et qui joue la musique que lui, il aime, qu'il soit aussi acteur de sa pratique et qu'il commence à développer des liens affectueux, des liens amicaux, des liens, des relations avec les gens avec qui il joue et avec la musique qu'il joue. Et donc, si un élève a à la fois la rigueur des musiciens classiques et l'amour d'un musicien vivant, eh ben, je pense qu'il peut aller plus loin qu'un autre élève qui n'aura que l'un des deux.
Gabriel Faure, on a beaucoup parlé là, du duo avec Jean-Luc Thomas à la flûte, vous au violon. La première fois que je vous ai vu, c'était il y a quelques années, c'était très joli endroit qui s'appelle la Briqueterie dans la baie de Saint-Brieuc. Je crois qu'on est encore dans les Côtes d'Armor. Et vous jouiez avec un groupe qui s'appelle le Jack Daniels Band. Et là, on est dans le bluegrass.
Oui. En fait, quand je suis sorti du conservatoire, j'avais toute la capacité technique que j'avais acquise là-bas. Ce qui me permet aujourd'hui de jouer beaucoup de styles de musique différents. Donc j'ai pas peur de jouer du bluegrass ou de la musique roumaine ou de la musique orientale ou du jazz manouche. Ou si on propose de faire de la musique japonaise, j'irai avec plaisir. Et donc le bluegrass est venu naturellement parce que c'est une musique qui est très virtuose et j'aime beaucoup la virtuosité. Et avec ce groupe, le Jack Daniel String Band, c'est donc un frère et une sœur, Jack et Daniel Le, qui chantent ensemble depuis qu'ils ont l'âge de chanter ensemble. Et en fait, on est devenus comme une nouvelle famille de cœur ensemble. C'est-à-dire qu'on a développé des liens affectifs très 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 forts qui vont même au-delà de l'amour qu'on peut porter à la musique qu'on joue. Pour moi, le principal dans ce groupe-là, c'est les relations qu'on a entre nous. Et on peut monter sur scène ensemble dans n'importe quelle condition, devant n'importe quelle sorte de public. Ce qui se passe sur scène, c'est qu'on se retrouve, on est en famille, on rigole, on fait les fous et on fait de la musique. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, en fait.
Il y a un autre groupe, alors là, une grande formation. Alors, le Jack Titley, j'ai jamais le nom parce que...
The Jack Titley and the Business. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est donc le chanteur du Jack Daniel String Band, Jack Titley, qui compose. En fait, il est à moitié couvreur et à moitié musicien. Et donc, quand il pose des tuiles sur les toits, des ardoises, pardon, parce qu'en Bretagne, il y a des ardoises et pas des tuiles. Quand il pose des ardoises sur les toits et qu'il fait toute une rangée de 50 mètres de long, c'est très répétitif et donc il a l'esprit libre pour composer. Et donc, il compose énormément de choses, des chansons avec des thèmes instrumentaux complètement tordus. Et comme c'est un gars qui a beaucoup d'initiative et une grande énergie, il a décidé de monter son propre groupe. Donc c'est plus le Jack Daniels, c'est Jack Titley and the Business. Donc on y retrouve dedans les membres du Jack Daniels String Band, avec Daniel, avec moi, avec le contrebassiste Jonathan Caserta et tout ça, plus d'autres musiciens pour apporter une touche un peu plus électrique. Et c'est, par contre, c'est plus du bluegrass, c'est centré autour des compositions de Jack, qui peuvent être un petit peu soul, un petit peu cajun, un petit peu bluegrass évidemment, un petit peu jazz, un petit peu... pop, folk, plein de... voilà, c'est autour de Jack Titley, quoi.
On va quitter la musique, Gabriel Faure, si vous voulez bien, mais on va y rester aussi un peu, parce qu'on continue à discuter avec vous, qui êtes musicien, vous nous l'avez dit, vous êtes tout le temps musicien. On va faire ce qu'on appelle une mise en abîme, je crois. On va parler, on fait de la radio, là, on va parler radio. Vous faites également ce que je fais de la radio.
Absolument. Est-ce qu'on a le droit de parler du premier confinement à la radio ?
Bien sûr, on peut parler tous. C'est une radio en plus libre et associative, vous voyez. Donc,
Parfait. Donc, pendant le premier confinement, voilà, j'arrête d'en parler, parce que ça rappellera trop de mauvais souvenirs à trop de gens. J'ai fait une petite crise existentielle, comme beaucoup de monde, comme je pense la plupart des gens d'ailleurs. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais devenir après ? Je ne pourrai plus jouer de musique dans le monde d'après, ça va être affreux. Et donc, je voulais devenir d'abord conducteur d'engins lourds, donc conducteur de tractopelles et de bulldozers. Et puis, bon, ça m'a passé. Puis après, je voulais devenir conducteur de drones. Et puis, c'était rigolo au début. Puis après, ça m'a passé. Et puis finalement, j'ai regardé la liste des formations possibles et j'ai vu qu'il y avait documentariste sonore. Donc, fabriquer des documentaires pour la radio. Et je suis parti faire ça à Paris pendant 3 semaines. C'était très, 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 très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et quand je suis rentré en Bretagne, et ben, comme j'avais toujours pas de travail en tant que musicien, j'ai passé mon temps à aller interviewer d'autres musiciens qui, eux non plus, n'avaient pas de travail et qui donc étaient très heureux de me recevoir. Et j'ai réalisé une série de portraits de musiciens du centre Bretagne. On peut retrouver donc les documentaires sur rkb.bzh et sur mon site internet gabfort.com, parce que si on tape Gabriel Faure sur Google, eh ben, on va tomber sur Gabriel Fauré, le Requiem, la Pavane, toutes les œuvres pour violon, etc. Donc sur internet, je tends à me faire appeler gabfort.com. J'avais envie de faire quelque chose de court et qui mette en valeur vraiment extraire le jus intéressant de ce que disent les musiciens autour de moi. Parce que en Bretagne, et notamment, principalement, enfin, et beaucoup en centre-Bretagne, il y a des musiciens qui sont magnifiques, qui ont des démarches artistiques extraordinaires et qui sont connus autour d'eux, mais pas forcément de manière nationale. Ou même si, par exemple, Nicolas Kemener, qui avait fait l'Olympia plusieurs fois avec Gilles Servat et tout ça, même s'ils ont fait beaucoup de tournées mondiales, eh ben, ils ne sont pas forcément connus en tant qu'eux-mêmes. Et pourtant, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à dire et qui ont beaucoup de choses à apporter au monde de la musique et au monde en général. Donc j'avais envie de les mettre en valeur, et c'est ce que j'ai fait.
Vous êtes danseur, vous-même, Gabriel Faure ?
Mon cher Didier, vous avez devant vous le meilleur danseur de gavotte de l'ouest du Couesnon. Mais je suis temporairement retraité de la danse gavotte par paresse, parce que j'ai envie de laisser un petit peu la place aux jeunes.
Non, on va faire un peu de géographie parce que on pourra écouter cette émission à la fois sur Radio Campus Bordeaux, sur Alternante FM également. On pourra bientôt écouter ça en podcast. Alors imaginons qu'on soit un auditeur de la vallée de la Roya, un auditeur de Caen, un auditeur de Bordeaux, peut-être même un auditeur de Nantes. Vous pouvez nous rappeler le Couesnon et qu'est-ce que c'est que le centre-Bretagne ?
Alors le Couesnon, c'est la rivière qui sépare la Normandie de la Bretagne. C'est un peu un symbole pour moi parce que j'habitais en Normandie avant et je suis arrivé en Bretagne, donc j'ai franchi le Couesnon. Et donc le centre Bretagne, c'est un endroit qui est assez magnifique, merveilleux, puisque en Bretagne, c'est un pôle d'attraction très fort pour beaucoup de gens. Et tous les gens qui arrivent vers la Bretagne, donc qui arrivent de Paris, qui arrivent d'autres villes comme Bordeaux ou Lyon ou ailleurs, ils vont se ruer sur la côte parce que la côte est magnifique. Et donc les maisons sur la côte monte en valeur, on chasse les pauvres, il est impossible de se loger autant en location qu'en achat au bord des côtes bretonnes, que ce soit au nord, à l'ouest ou au sud. Et donc tous les pauvres gens qui habitaient là et dont le but principal de la vie n'était pas de gagner beaucoup d'argent, mais plutôt d'être heureux, et ben, ils se sont retrouvés poussés vers l'intérieur et se retrouvent naturellement au milieu de la Bretagne, dans le centre Bretagne. Donc moi j'occupe un territoire qui est situé à l'ouest du centre-Bretagne, qui s'appelle le Creys-Braise. Et c'est un endroit où on trouve des peintres, des sculpteurs, des poètes, des gens qui sont là et qui sont juste beaux et qui vivent dans des petites maisons dans la campagne, perdu au milieu de rien, où on ne voit surtout pas la côte, parce que sinon on ne pourrait pas habiter là. Et il y a une sorte de grand bouillonnement, dynamisme en ce moment, qui est en train de renaître dans le centre-Bretagne. Il y a un dynamisme culturel très fort qui est en train de renaître, avec des festivals qui se montent, des concerts partout. Il y a des groupes de musique qui se montent, qui se démontent, qui se foisonnent dans tous les sens. Et ça crée une vraie dynamique, une vraie émulation collective qui est très 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 agréable à fréquenter.
Alors on est où là? On est autour de Rostronin. Est-ce qu'on peut citer une commune ou une ville?
La plupart des gens connaissent la ville de Carhaix pour les vieilles charrues, avec Céline Dion qui n'a pas encore pu venir. Mais donc Carhaix, pour moi, c'est la limite ouest de mon territoire. Moi, je me situe plutôt autour de Rostronin, qui est moins connu, mais qui ne le mérite pas. Et spécifiquement plus à Melionec, là où je vis. Ma zone d'influence personnelle, là où je vais faire mes courses et faire mes rencontres amoureuses, se trouve entre Rostronin et Guémené-sur-Scorff, la patrie de l'andouille de Guémené.
Vous avez cité cet adjectif heureux. Vous êtes heureux, Gabriel Faure?
Je crois que je suis plutôt heureux, oui. Oui, 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 tout à fait.
Nous étions en compagnie de Gabriel Faure, violoniste. Vous êtes bien sûr à l'écoute d'Alternante FM, 98.1 à Saint-Herblain et Nantes, 91 à Cambon et Saint-Nazaire. Thank you.